Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 271e numéro de Comic Stories. Un numéro durant lequel nous allons revenir sur une nouvelle importante qui est tombée récemment du côté de l'AVF, qui est la refonte de la gamme Panini. Et puis en guise de backup, nous parlerons de quelques sorties comics récentes et puis on fera une petite sélection parmi les sorties à venir dans le mois de mai qui commence. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 271 de Comic Stories. Numéro 271 qui sera en duo puisque je suis avec Anthony.
Bonsoir ou bonjour.
Je l'ai dit avant le générique, grosse annonce récente du côté de chez Panini. Ça sera notre sujet principal pour cette émission avant de passer à quelques chroniques de titres assez importants dont le Action Comics 1000 et puis une petite sélection des sorties de mai. Mais effectivement, ce qui nous a bien occupé les derniers jours, c'est cette fameuse grosse annonce de Panini. Concernant le Marvel Legacy, ce qu'on sentait arriver chez un éditeur, arrivera chez l'autre.
Tout à fait. Donc je vais récapituler un petit peu, on fait comme ça très rapide, puisque finalement Panini a un communiqué assez clair, tout est dedans. Ouais. Donc très brièvement, donc Marvel Legacy, ça commence en juillet 2018, ça prend la suite de Secret Empire, et c'est plus ou moins la nouvelle ère Marvel jusqu'à la prochaine, d'ici un an. Donc on peut déjà s'attendre à un prochain relaunch d'ici un an, mais bon là Panini n'y est pour rien. Alors on pourra toujours me dire ils ont qu'à pas relauncher, certes, mais bon, Marvel le fait, donc ils s'adaptent déjà ça. Alors pourquoi cette annonce du Marvel Legacy par Panini fait jaser, notamment sur leur page Facebook? Parce que je vais prendre un peu, je vais pas prendre l'annonce des kiosques, je vais commencer par ce qui fait le plus râler.
Oui, on verra le contenu éventuellement plus tard.
Mais... Oui, c'est ça. C'est que cette nouvelle offre, alors entre guillemets kiosque, on y reviendra, va quitter les rayons presse et les distributeurs non spécialisés, on va dire. Puisqu'en fait, comment ça va se présenter? Ça va être tout simplement dans des rayons librairie, donc plus de presse, plus du tout. Et ça s'accompagne par un changement de maquette, puisqu'on oublie les revues souples, et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus rigide, à l'image de ce que faisait Panini il y a quelques années maintenant, dans la gamme Lex, gamme 100%, où on avait des volumes semi-rigide, semi-souple, à la manière d'un TPB, mais avec un rabat en première et quatrième de couverture. Et donc c'est principalement ça qui fait exploser les compteurs de commentaires de cette annonce, puisque tout le monde se vexe quasiment que Panini quitte ce mode de publication. Alors on voit beaucoup 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 d'arguments du style mais où est-ce que je vais pouvoir me procurer mes comics, vous vous rendez compte, vous supprimez un petit peu l'accès très facile des comics aux jeunes lecteurs, vous faites table rase de ce qui a fait votre succès, les gens en province, comment vont-ils faire pour se procurer leur kiosque? Alors, tous ces arguments-là sont recevables. Maintenant, moi, je pense que le cœur du problème n'est pas là. Parce que, un, je vais prendre mon cas personnel. Quand je commande des choses sur Internet, donc principalement des bandes dessinées et principalement des comics, je les fais livrer chez mes parents qui habitent dans un patelin de 600 habitants où il n'y a pas de presse, il n'y a pas de librairie. Et il n'y a pas de point de vente classique. Et quand on commande sur Internet, sur des sites marchands que je ne citerai pas, ça arrive dans la semaine. Donc l'argument du « je ne pourrais pas aller en presse acheter mes comics », pour moi, en 2018, c'est pas qu'il n'a plus de sens, mais il a presque pas lieu d'être, quoi. Aujourd'hui, on a accès à une quantité de marchandises, et là, dans notre cas, des comics, où on peut être livré dans la semaine, sans déplacement et gratuitement. Les frais de port sont gratuits. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que le problème n'est pas là. Après, on prive les jeunes lecteurs, et souvent, principalement, donc, pourquoi pas des lycéens, des collégiens ou des étudiants qui ont un... qui n'ont pas forcément comment dire une culture très vaste et qui vont dans leur presse, trouvent le premier numéro qui est disponible, le lisent et pourquoi pas continue. Honnêtement, je pense que l'époque Lug, Semic et pourquoi pas Marvel France, elle est terminée. Et aujourd'hui, la plongée dans les comics se fait plus au hasard dans un point presse, vraiment. Je pense qu'avec l'essor d'Internet, la place que prend la librairie, si on veut se mettre aux comics, si on veut découvrir ça, on va pas sur du kiosque, je pense. Donc pour moi, cet argument-là, il est là, il existe. On peut l'entendre, mais c'est pas le premier, quoi. C'est pas le premier problème autour de cette annonce. Je sais pas ce que t'en penses sur ce point-là, mais.
Bah après, sur le départ des kiosques, effectivement, pour passer sur ce qu'ils appellent eux les rayons livres, pour ne pas dire
ouais,
la librairie.
C'est ça. Hein, c'est
ça. Ils ciblent des structures comme la Maison de la Presse qui contiennent des parties librairies et qui, du coup, pourront s'approvisionner dans ces numéros-là. Mais la plupart, des kiosques de campagne et compagnie, effectivement, ne seront pas concernés. C'est surtout une histoire de la publication qui s'arrête, plus que quelque chose de contestable, de terrible, etc. Parce qu'effectivement, on peut se faire livrer, il y a d'autres solutions, ok, machin. Voilà, c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué dans ce revirement, c'est que franchement, on en parlait à demi-mot la dernière fois, oui. On attendait tous qu'Urban nous annonce arrêter le kiosque pour ne faire que de la librairie. Parce que leur politique est plus vers la librairie que le kiosque, c'est pas forcément par goût qu'ils l'ont lancé, mais parce qu'il fallait le faire un peu, entre guillemets. Et finalement, on est tous pris de court en apprenant que c'est Panini qui fait ça. Que du coup, ça va être des dizaines d'années d'histoire de la diffusion des comics qui vont être. La page se tourne, quoi. On va changer d'air dans le mode de diffusion, dans le mode d'achat. Ça, c'est un point.
Tout à fait.
C'est un demi-problème. Voilà. Alors oui, pour ceux qui sont en campagne, pour ceux que voilà, il y a peut-être des cas effectivement pour lesquels ça risque d'être plus compliqué d'être approvisionné et voilà. Et on aime bien aussi aller chercher notre comics le matin quand il sort pour certains. Ça sera plus possible. Ok. Maintenant, c'est qu'effectivement pour moi qu'un demi-problème, c'est après que ça me dérange plus.
Oui. Alors l'autre point et qui là est beaucoup plus dérangeant, c'est que. Alors, du point de vue offre et cohérence de la gamme, j'ai pas grand-chose à dire puisqu'on est sur la continuité de ce qui est fait maintenant depuis Secret Wars, voire même avant, puisqu'on a un mag Avengers, Deadpool, Spider-Man, X-Men, complété par globalement les mêmes titres, mais en hors-série. Alors que ce soit Avengers Extra, Avengers hors-série, Spider-Man, des hors-séries, plus un mag. Alors, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Universe, qui passe en Epix. Bon, là je pense que c'est vraiment pour faire un numéro 1 de plus, parce que c'est globalement la même chose, puisqu'on va y retrouver les Gardiens et Thanos, et on perd Nova, qui de toute manière était terminé. Donc, d'un point de vue, entre guillemets, le sommaire de l'offre, j'ai pas grand chose à dire. C'est cohérent, il y a moins de mag. Par contre, là où c'est beaucoup plus dommageable, c'est quand on se penche sur les sommaires, cette fois, des kiosques. On y retrouve des numéros qui passent de 128 à 112 pages, donc seulement un épisode en moins. Sur l'ensemble des numéros réguliers, j'imagine que les hors-séries vont être un petit peu plus conséquents.
128 pages.
Par contre, 128 pages. Donc, c'est globalement ce qu'on a dans les kiosques réguliers aujourd'hui. Par contre, là où c'est beaucoup plus dérangeant, c'est que les kiosques prennent entre 60 et 1 euro, 60 centimes, 60 euros ça faisait beaucoup, 60 centimes et 1 euro d'augmentation. Donc on arrive à des kiosques à la pagination plus faible qu'aujourd'hui, qui vont coûter 6,50 voire 6,90. Et moi le problème, il est là quoi. Surtout que on vient nous justifier ça par un contre-argument total qui est, bon, on supprime les pubs, pourquoi pas, ou du moins... Si on les supprime pas, on les réorganise de manière cohérente. Alors, qui
vient pas découper en quatrième de couverture.
J'ai fait le raccourci. Alors, on la supprime en quatrième de couverture.
La pub est supprimée en quatrième de couverture. Et ça, c'est pas un choix de leur part, c'est une obligation puisque pour être diffusé en librairie, il ne faut pas de pub au dos.
D'accord. Tu m'apprends quelque chose. Donc là, déjà, moi, cet argument, il est pas fondé. Le deuxième, c'est il est orienté autour de la qualité de ces futurs Marvel Legacy, sur laquelle pourtant on peut pas juger. Ils nous promettent quelque chose de beaucoup plus homogène, quelque chose de beaucoup plus entre guillemets fluide et beaucoup moins haché comme on peut avoir aujourd'hui, puisque aujourd'hui le problème, tout le monde le connaît, c'est des pubs au milieu, c'est le récap en 1000 épisodes ou à des fois sur la première de couverture ou des fois au début, pas de chapitrage, toujours, la checklist au milieu, au début, à la fin. Donc Leur argument de cette augmentation de prix et de cette diminution de la quantité, c'est une amélioration de la qualité. Enfin, mais pour moi, ça, c'est normal, quoi. Ben, moi, le principal reproche qu'on peut faire à Panini sur cette annonce, c'est ça, quoi. C'est nous justifier une diminution de la quantité, pas forcément de la qualité, mais de la quantité, une augmentation de prix et avec une amélioration de la qualité. Mais enfin, Urban n'a pas attendu d'augmenter ses prix pour faire des kiosques d'un point de vue maquette et édition irréprochable.
Bah oui.
Donc, ben, moi, c'est ça. C'est ça qui me gêne profondément. Après, le coût du changement de format, de la maquette, de dire on tente quelque chose, parce que ça fait quelques mois qu'on sent que la distribution presse commence à être tendue et assez irrégulière. Donc, vouloir tenter autre chose en gardant, ils le savent qu'il y a une base de lecteurs fidèles qui lisent du kiosque depuis 20 ans, voire même avant, mais en tout cas du Panini depuis 20 ans, ils sont au courant. Ils savent qu'il faut continuer à perpétuer ce format et ils font au mieux. Je pense vraiment qu'ils essayent de faire au mieux. Donc, le changement de maquette et de rayonnage, il faudra vraiment voir ça. Après, il va se poser aussi le problème de place, c'est-à-dire que pour 112 pages, on va se retrouver avec un 100% Marvel. S'il est au bout de 1 voire 2 ans de suivi, on va se retrouver avec des étagères complètes de numéros. Alors que, bon, au regard de la quantité fournie, ce ne sera pas si énorme que ça. Donc il y a aussi ce problème-là qui va se poser. Et moi, c'est vraiment cette justification d'une amélioration de la qualité sous prétexte que ça fait vraiment du style avant nos kiosques n'étaient pas propres. Venez maintenant, c'est plus cher, mais c'est mieux.
Mmh. On vous fait payer plus, mais on fait notre boulot. Ouais.
C'est là pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment ça qui est dissonant, quoi. C'est un contre-argument total, quoi. Après,
comme le fait de se cacher derrière cette disparition de la pub, faux arguments, parce que la pub elle se retrouvera à l'intérieur, parce que là ils auront peut-être le droit de la mettre, et encore pas tous les types de pubs, parce qu'on va se trouver sur des rayons librairie. Mais il y a plein de choses là-dedans qui m'ont fait lire quand j'ai lu leur communiqué. On se fout bien de notre gueule.
Disons qu'ils se foutent de. J'ai un peu du mal avec ça parce que je pense vraiment qu'ils essayent de. Ils essayent de faire au mieux. Maintenant, ça justifie. Enfin, à la fois se dire ils font au mieux, ça justifie pas tout. Et à la fois. Et à la fois, ça justifie un peu, quoi, tu vois.
Et moi, ce qui me dérange dans cette augmentation de prix, on va parler un petit peu du off et de choses dont les auditeurs sont pas forcément au courant, mais il y a un petit peu plus d'un an, on s'était renseigné avec quelqu'un d'autre pour éventuellement récupérer une licence et la diffuser en France. Donc, on avait fait des études de marché, on avait fait des études concernant le prix de la fabrication de ces bouquins en kiosque, de format librairie, de couverture cartonnée, semi-rigide, nombre de pages, etc. Et je peux vous dire, devis à l'appui de ce que nous on avait et calcul fait de ce que nous on avait pour une version kiosque versus une version librairie, etc., que ce qu'ils font là en enlever 26 pages sur un kiosque, hein, parce que passer de 128... enlever 16 pages sur un kiosque, pardon. Enlever une vingtaine de pages, allez, sur un kiosque, pour passer à une couverture cartonnée, le fait d'enlever 20 pages fait économiser plus que la dépense supplémentaire pour la couverture. Donc, ça veut dire que le numéro va leur coûter, au pire, le même prix de fabrication qu'avant. Donc, pourquoi l'augmentation?
D'accord.
Surtout que nous, on avait un volume qui était quand même bien en dessous, sans doute, de ce qu'eux ont comme volume de diffusion. Sachant également qu'en termes de coût de distribution, le coût de distribution d'un titre en kiosque, c'est quand même pas négligeable, tout ça, ils ne l'auront plus. Ils ne vont plus payer ce coût-là, ils auront juste un petit supplément à payer sur l'approvisionnement des librairies qui sont déjà approvisionnées de leurs titres, sauf que là, ils vont juste en envoyer plus. Mais il n'y aura pas plus de points de vente à approvisionner, il y en aura zéro côté presse, autant côté librairie, avec un peu plus de quantité. Donc là aussi, ils vont s'y retrouver financièrement et sans doute même faire des économies. Pourquoi ? L'augmentation du prix. Parce qu'on a l'impression d'avoir un produit un peu mieux parce qu'on a une meilleure couverture. Moi, je trouve que c'est un petit peu se moquer de nous, quoi.
Ouais. Oui. Et se pose aussi le problème de cette diminution de la pagination va supprime un épisode, pas un épisode, mais un numéro. Alors, est-ce que on va sans doute se retrouver avec 4 séries dans les kiosques on rejoint finalement le raisonnement et le questionnement soulevé lors du précédent podcast qui est est-ce qu'on peut vraiment maintenant considérer la VF comme plus intéressante que la VO, c'est-à-dire c'est-à-dire que pour un nombre de enfin pour un une pagination moins importante on a une augmentation de prix. Alors honnêtement, l'offre qu'on a depuis Secret Wars, le rapport quantité prix est l'un des meilleurs qu'on ait eu, est l'un des meilleurs qu'on ait eu depuis quasiment les débuts, puisqu'on avait entre 5 et 6 épisodes pour 5,90. Donc c'était assez imbattable. Là, on prend 1 euro et on perd un épisode. Mmh. Donc il suffit, quasiment pour, si le kiosque ne contient que deux numéros qui nous plaisent vraiment et qu'on a envie de suivre et qui ne sont pas lus sous la, entre guillemets, sous la contrainte de l'achat, bah le débat est plus vraiment le même, quoi. C'est-à-dire que pour quelques centimes de plus, et on a les numéros VO qui nous plaisent vraiment et qui sortent entre 4 et 7 mois, entre 4 et 6 mois avant, quoi. Mmh. Donc là le débat qu'on avait et qui était un petit peu embrumé du mois dernier, puisqu'on était sûr de rien, là maintenant on est sûr, bah, il est beaucoup plus évident. Beaucoup, oui. beaucoup plus évident.
Complètement, complètement. Et si on a la chance de pouvoir comprendre l'anglais, les TPPVO sont dispo au moment où sortent les kiosques.
Oui, tout à fait.
Donc, s'il y a une ou deux séries qui vous plaît, bah, évidemment, vous prenez un ou deux TP, vous n'en aurez pas pour plus cher.
Non.
Surtout avec les prix de la vente par correspondance.
Il faut vraiment raisonner par... Il y en a qui... Enfin, je l'ai vu, cet argument sur Facebook et sur des sites spécialisés comics, du même avec cette augmentation de prix, le coût à l'épisode reste plus intéressant. C'est vrai.
Oui,
c'est vrai. 4 numéros divisés par le prix... ou l'inverse, il est tard, ça reste plus intéressant. Maintenant, encore faut-il que toutes les séries nous intéressent. Et là, c'est libre à chacun. Mais enfin, moi, personnellement, ça fait quand même quelques années que j'en lis, je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et ça fait quelques mois, je me dis, bon, voilà, des USA Avengers, des Occupy Avengers, je les lis parce qu'elles y sont. J'irai jamais lire ça.
Bien sûr, on les a payés, on les lit, mais c'est pas pour ça qu'on les aurait consommés autrement.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que cette annonce Panini fait beaucoup de bruit, mais de la française, donc ça reste assez modéré, mais quand même, et je pense que le bruit n'est pas fait pour les bonnes entre guillemets raisons, et que Panini a quand même bien réussi leur coup.
Oui, ils vont bien s'en sortir. Puisqu'ils
camouflent, cette augmentation de prix et cette diminution de la pagination est complètement effacée par la disparition du mode de publication, qui va pas changer grand chose au réel, je pense. Mmh. Donc c'est entre guillemets bien joué, on peut parler comme ça. Maintenant voilà, c'est vrai que t'es en vacances, tu passes dans une veste, t'as pas ton numéro, c'est dommage. Maintenant tu rentres chez toi, tu le commandes dans 3 jours, tu vois quoi. Donc c'est enfin vraiment je m'inquiète pas du tout de la disparition des presses. C'est quelque chose d'historique qui s'efface, d'accord, mais ça évolue. Donc je pour le coup je demande à voir. J'irai quand même lire ces.
Tu t'inquiètes pas de la disparition de ce format. Je pense que s'ils voulaient faire couler le kiosque, faire couler le mensuel, puisqu'on peut plus parler de kiosque, tuer les mensuels en disant c'est pas de notre faute, ils ne s'y seraient pas mieux pris. Vraiment. On a parlé du prix, on a parlé du mode de distribution qui va changer, etc. Moi, je me pose quand même la question, les libraires, que vont-ils faire des numéros qui vont leur rester en fin de mois, puisque les kiosques, les points presse, etc., retournaient les mags. Mais là, les nouveaux mensuels, est-ce que les libraires vont pouvoir les retourner ou pas? Si jamais la réponse était non, un libraire qui va se retrouver avec 5 ou 10 numéro 1 sur les bras, est-ce qu'il va recommander beaucoup de numéro 2 derrière et encore moins de numéro 3, etc. Je suis pas sûr si c'est pour augmenter son stock et avoir des problèmes après de place au niveau de toute l'offre qu'il a à faire, parce qu'il n'y a pas que des comics avant, il n'y a pas que des mensuels Panini. Si c'est pour se bouffer de la place avec des trucs qui leur restent sur les bras, est-ce que ça va les intéresser de s'approvisionner en quantité et d'avoir du coup quelque chose de disponible pour tout le monde à tout moment? Je suis pas sûr.
Puis surtout, comment tu le vends, quoi? C'est là pour le coup, c'est vraiment un format hybride. C'est-à-dire que autant le kiosque, tu pouvais dire, bon, bah, c'est du format mensuel, c'est ce qui se rapproche le plus du single, c'est entre guillemets le mode de publication historique. Donc, les vieux lecteurs, je pense que le lectorat, entre guillemets, vieux, entre guillemets, connaît, se dirigeait principalement vers j'ai tendance à voir ça comme ça, vers le kiosque, parce que c'est quelque chose d'affectif. Mmh. Alors que la librairie, c'est quelque chose de beaucoup plus ponctuel, qu'on peut venir piocher, bon, qu'on peut suivre aussi de manière régulière, qui revient là pour le coup plus cher, mais qu'on peut suivre comme ça, au sortir d'une séance de ciné, d'une série, si on veut s'y intéresser comme ça, par une envie d'approfondir. Là, ces trucs-là, comment tu les vends, quoi?
Comment on les vend?
Pour le lecteur kiosque, tu lui dis, c'est la même chose, il y a moins de pages, c'est plus cher, c'est plus lourd, ça prend plus de place. Bon, dit comme ça, ce qui est globalement vrai, hein, dit comme ça, c'est pas très attrayant. Pour le lecteur librairie qui a l'habitude de suivre sa série, j'en sais rien, Thor, Captain, bah tu lui dis, lis ça, et il va se dire, mais qu'est-ce que tu me vends? Il y a plein de trucs, c'est la même chose, c'est la même maquette, mais il y a plein de trucs dedans, ça m'intéresse pas. Donc je pense que c'est vraiment un coup de, enfin une tentative de survie pour éviter de marquer la rupture immédiate, mais à terme, enfin je.
À terme, pour moi, l'idée c'est peut-être d'arrêter ça. Et en plus, enfin je sais pas si tu t'es déplacé récemment, enfin moi cet après-midi du coup, dans un rayon de librairie consacré à Panini, il y a déjà 50 000 formats, 50 000 collections. J'ai réussi à trouver certains titres, certaines séries dans trois gammes différentes. Le même, mais juste dans trois formats différents, dans le même rayon. Et là, on va rajouter encore des trucs mensuels avec des autres formats, des autres maquettes, des autres designs. Déjà que les lecteurs sont paumés quand on veut débuter, quand on veut se lancer, etc. Alors là, ça va être...
C'est vrai que d'un point de vue de l'étalage, t'as raison, parce que bon, quand tu vas en presse, il n'y a pas de souci. C'était en presse, c'était là, tu savais ce que t'achetais. Maintenant, quand tu vas aller en librairie, je parle pour la boutique dans laquelle je me rends régulièrement. Donc cette fois, une boutique entre guillemets générale qui fait de la franco-belge manga, parce que je pense que les comic shops seront beaucoup moins impactés par ça.
Oui, puisque ils auront le même
place. Le lectorat est beaucoup plus attentif, mais des librairies du type BD Fugue ou Album, je sais plus si ça existe, bah tu te pointes sur l'étalage, c'est-à-dire que bah, c'est au milieu d'albums 100%, qui sont eux-mêmes au milieu d'albums luxe, qui sont eux-mêmes au milieu d'albums intégraux. Tu te retrouves avec du House of M étudié et édité en édition luxueuse, elle-même éditée en édition 100%. Enfin, je trouve que ce choix, au-delà de changement de distribution, c'est vraiment le choix full librairie qui est vraiment étonnant, quoi.
Ouais, et puis là, on parle de librairies spécialisées BD. Parlons maintenant de librairies généralistes qui vendent des romans, qui vendent des bouquins scolaires, qui vendent des bouquins touristiques, etc. Et qui vont se retrouver avec un truc qu'ils ne comprennent pas à vendre. Bon.
Ouais.
Pour moi, s'ils avaient voulu tuer le format mensuel, ils ne seraient pas mieux pris, vraiment. Bon, on verra de toute façon au mois de juillet comment ça va se passer. Et puis dans les mois qui suivent.
On refera un point à ce moment-là pour quand même juger des éditions, parce que bon, ça reste quand même un changement majeur. On verra d'ailleurs si Urban va s'aligner ou pas, puisqu'ils ont quand même déjà entamé leur transition, puisque leurs kiosques se rapprochent en termes de format et de cadrage d'une librairie. Très clairement. Et ça m'étonnerait pas que d'ici, alors ils vont pas doubler l'annonce parce que là ce serait la fin, mais d'ici 6 mois à 1 an, j'ai dit mal ce soir, on ait une annonce du même type du côté d'Urban qui, je pense, sera beaucoup plus toléré parce que leur offre kiosque a toujours été irréprochable d'un point de vue maquette. Donc,
après,
il y a peut-être moyen qu'il leur épargne du jeu, là.
Urban se retrouve maintenant seul sur le terrain du kiosque. Donc, est-ce que, justement, tirer leur épingle du jeu, ça serait peut-être pas de persévérer et de chercher d'autres solutions, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes avec le réseau qui est chargé d'approvisionner les kiosques, hein. mais est-ce qu'ils auraient pas intérêt, du coup, maintenant qu'ils sont seuls à la maison, de tenter quelque chose d'un peu fort et de profiter de ce monopole, entre guillemets?
Oui, sur le papier, oui. La tendance me dit que non, mais dans les faits, oui. Ah oui, ils vont être les seuls sur l'étalage en presse.
Parce que leur argument, un de leurs arguments pour dire, enfin, pourquoi on ne fait pas trop de mag, on n'en fait pas plus que 4, etc. C'est parce qu'il y en avait déjà beaucoup en face et qu'ils avaient peur.
C'est vrai.
Voilà. Alors là, maintenant, il y a toute la place, il y a plus personne.
C'est vrai.
Donc allez-y, faites-nous un mag Superman. Allez-y.
Non, mais même pourquoi pas plus de hors-série.
Mais oui, des hors-séries, des sagas complètes, voilà, continuez ce que vous avez fait sur Nightwing par exemple, avec le premier TP de Chuck Dixon qui est sorti en récit complet il y a un mois ou deux en kiosque pour 6,90 du coup.
Ils ont vraiment vraiment une place manquante.
Il y a peut-être quelque chose à tenter avant d'arrêter.
Oui, parce que à terme, je pense qu'ils arrêteront aussi. Mais dans l'année qui suit, il y a peut-être moyen d'observer quelques changements intéressants. Pourquoi pas, peut-être, j'allais dire un autre acteur, mais ça m'étonnerait.
Ou un autre acteur. Pourquoi pas.
Je me prends maintenant à rêver de comics image édité dans un format. Je rêvasse un peu, mais je ne bois pas.
Bah pourquoi pas, oui. Tout, enfin, à mon avis, là, du coup, y a quelque chose. Il y a un trou et la nature a horreur du vide. Donc,
Parce que c'est un acteur historique du kiosque qui s'en va là. Enfin, vraiment, c'est. Puis c'est acté, c'est officiel.
bien sûr.
On ne peut pas dire que ça a été fait dans l'ombre. On peut aussi parler de l'augmentation rétroactive des prix, notamment sur les intégrales,
Ah,
qui
l'augmentation en
globalement
librairie, oui, les
restent.
intégrales qui passent à 35 euros alors qu'elles étaient à 30 euros il y a encore 7 ou 8 mois, puisqu'on a eu une augmentation déjà de 30 à 32 l'été dernier.
Ouais,
Les deux
c'est.
luxe
Alors, est-ce que
vont également
Panini n'est
augmenter, je crois. Enfin, tous les formats librairie quasiment vont augmenter.
Étonnant, c'est étonnant. Alors, est-ce qu'ils sont si autant dans le rouge que ça? Parce que bon, est-ce que si tu augmentes les prix, c'est que derrière ça suit pas normalement.
Je sais pas. Je sais pas. Et est-ce qu'augmenter les prix, c'est une solution pour améliorer les chiffres de vente?
Je sais pas, parce que tu t'adresses quand même à un lectorat régulier. Je pense que le mythe du nouveau est assez faux.
Oui, le
Donc
nouveau lecteur qui viendrait en sortant du cinéma, oui. Eh bien,
c'est.
figure-toi que si, j'en ai croisé un cet après-midi.
Ouais, t'en as croisé un.
Non, mais je me suis dit le pauvre, parce que le pauvre, c'est un gamin, je sais pas, 16-17 ans, voilà, sorti, qui sortait du ciné sans doute, qui avait Infinity War et qui était là dans la librairie BD où j'étais et qui voit quoi? Le Marvel Events, Infinity War, sauf que. Bah, il a regardé, les dessins étaient dégueulasses, il l'a vite reposé. Bah, dégueulasse. Pour lui, parce que c'est du vieux, ça a plus de 15-20 ans maintenant, donc c'est plus du tout les standards de dessin actuels. Enfin, le gamin, ça lui a pas
Non.
parlé du tout, il a reposé le truc aussi sec. Et heureusement pour lui, parce que s'il l'avait acheté, il se serait trouvé avec quelque chose qui n'est pas le premier tome de la saga de Jim Starlin. Donc il aurait été
C'est vrai.
complètement largué.
Et en bon fan, tu aurais pu l'orienter vers Axis ou vers Avengers versus X-Men.
Évidemment, évidemment, de Fear
Ouais,
Itself.
exactement.
Mais bien sûr.
Exactement.
Donc bon, voilà, juste pour dire, oui, peut-être qu'il existe ce nouveau lecteur, mais du coup, lui, il n'a pas acheté.
Là, ouais. Exactement. Bon.
Bref, moi, il y a autre chose encore pour continuer à avancer un petit peu concernant cette annonce. Le petit vernis qu'on nous met. Allez, on vous offre des stickers.
Ah oui, oh là là, au secours.
Franchement, pour fêter le lancement, alors faut quand même lire le paragraphe parce qu'il est énorme. Pour fêter le lancement de Marvel Legacy en France, nous offrons une collection de stickers exceptionnels dont vous trouverez l'album le 4 juillet dans Marvel Legacy Spider-Man numéro 1. De juillet à septembre, Marvel Legacy Avengers, Spider-Man, Deadpool et X-Men accueilleront les 96 stickers qui vous permettront de compléter cet album collector. Donc en gros, il va y avoir un album offert avec Spider-Man numéro 1 pour coller 96 autocollants. Les 96 autocollants vont être répartis dans les trois premiers numéros des 4 mensuels. Ce qui veut dire pour compléter ta collection, tu es obligé d'acheter les 12 numéros sur 3 mois.
Ouais, ou
On
alors
fait
tu n'es pas
4 mois.
obligé de compléter ta collection.
Ah bah le mec qui va choper l'album et qui va vouloir avoir toutes les images, sachant que les images ne seront pas vendues ailleurs et que machin et que ci et que ça. Hop, allez, on t'offre des stickers, mais en même temps, on te la met un petit peu à l'envers, parce que si tu les veux tous, il faut acheter tous nos mags pendant 3 mois.
Ouais, oui, cette annonce m'a. Ouais, j'y pensais même plus, mais parce que bon, enfin, honnêtement, je sais pas qui ça intéresse, mais.
C'est plus drôle qu'autre chose, et moi, c'était vraiment le pompon, quoi. Tu dis, allez, puis en plus, pour peu qu'ils nous collent bien la pochette de stickers devant la cover, comme ils avaient fait pour Secret Empire, ça, tu vois rien. Voilà, bref. C'est du détail, mais voilà, ça fait
Alors qu'à
souffrir.
côté de ça, ils nous font des couvertures thématiques Mobius. C'est très bien vu et personne n'en parle.
Ouais. J'avais éventuellement une autre chose sur ce format, enfin sur cette annonce à dire, mais tradition oblige, j'ai oublié. Donc c'est pas grave, on va continuer d'avancer, on va parler du contenu, et puis si ça revient, voilà, je le dirai, mais parlons du contenu quand même de ces mags. Donc 4 mags, Avengers, Deadpool, Spider-Man et X-Men. Les couvertures des numéros 1 ont été montrées. Alors j'espère qu'ils
C'est
vont revenir
dégueulasse.
en arrière parce que c'était absolument infâme.
C'est dégueulasse. On dirait, tu sais ce qu'on dirait? On dirait les espèces d'albums avec le papier carton qui sortaient il y a des années, qui étaient des récits
Oui,
piqués comme ça au hasard.
les
Oh,
grandes sagas,
c'est
ils appelaient ça.
exactement, exactement.
Ouais. Donc en gros, un mag Avengers. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce mag Avengers? Est-ce qu'on le sait? Avengers et Champions. Il s'est
Invincible
fait
Iron
avant.
Man aussi.
Voilà.
Donc, si c'est vraiment que ça le sommaire,
Bah, il y aura deux numéros d'Avengers
enfin,
puisqu'il est passé en bimensuel en bas avec le Legacy.
ah oui, c'est vrai que avec No Surrender, oui. Enfin, on en reparlera ou pas, d'ailleurs.
Ouais.
Mais.
Donc du coup, deux épisodes d'Avengers, un épisode de Champions et un épisode d'Iron Man. A priori, c'est ça, hein. Ou deux épisodes d'Iron Man peut-être, parce qu'on va quand même avoir cinq numéros dans le mag.
Quand je vois le sommaire à 6,90, à 6,50, c'est les boules, hein. C'est les
Oui,
méga boules, quoi.
ça fait pas rêver. Où est passé Captain America, quoi?
Apparemment, ce sera dans l'Avengers Extra. Donc, par contre, c'est vrai que si le Avengers Extra compile Captain America, Thor et une autre série, là, pour le coup, c'est quand même plus intéressant.
Voilà. Mais c'est pas mal hein, de mettre les séries intéressantes dans le mag à 6,90.
Oui, c'est bien vu.
Fait malin. Bon, voilà. Après, on a Deadpool. Deadpool qui va contenir les séries Spider-Man, Deadpool, Deadpool, et voilà.
Ouais, donc quid de Gwenpool et il me semble qu'il y avait. Enfin, c'est vrai qu'on en discutait aussi entre nous. Il y a pas mal de séries qui étaient en cours de publication qui sont littéralement éjectées, dont on n'a aucune nouvelle. C'est assez rare que Panini fasse ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça.
Voilà. A priori, du côté de Spider-Man, on va retrouver la série Amazing Spider-Man, évidemment. La Spider-Man consacrée à Miles Morales. Et la série de Ben Reilly, donc Scarlet Spider.
Cool.
Voilà le sommaire. Donc, on aura aussi la série de Chip Darsky, Peter Parker.
Spectaculaire, ouais.
Voilà. Ouais. Et puis, a priori, le sommaire est complet.
Ouais. Bon, là ça reste ce qu'on a aujourd'hui. Mais, en fait, ça reste ce qu'on a. Le Spider-Man est assez parlant puisque c'est exactement ce qu'on lit aujourd'hui, sauf qu'on lira un épisode de moins et on va le payer 60 centimes de plus.
Voilà.
Donc, j'espère.
L'épisode de moi, c'est série New York Vows.
Oui, c'est vrai.
A priori, qui fait
pas mal. Bon. Mais si ces 100% hybrides là, ne sont pas chapitrés et c'est encore le bordel concernant l'agencement des numéros et tout, c'est la fin. Là, c'est vraiment la fin. Là.
Du côté de X-Men, on aura Blue, Gold et puis Old Man Logan.
Ouais.
Voilà. Et puis après, on connaît en tout cas le sommaire du Epix numéro 1, donc l'ancien univers qui s'appellera Epix, qui sortira lui aussi en juillet, qui contiendra donc les Gardiens de la Galaxie, avec quelques encablures de commencer Infinity Countdown, et puis la série Thanos qui continue, donc voilà. Et puis on aura aussi le X-Men Extra numéro 1 qui sortira.
Elle est relancée par Donny Cates, et apparemment c'est une tuerie, donc ce mag, je pense, sera quand même à lire. Enfin, ce mag.
Éventuellement.
Après, les sommets ont quand même, je pense, un petit peu changé, puisque le Avengers va sans doute accueillir No Surrender, qui était quelque chose d'hebdomadaire ou de bimensuel. Donc le sommaire devrait s'épaissir un petit peu. Alors forcément, en supprimant un épisode d'une des trois séries régulières qu'ils ont annoncé. Pareil, le Marvel Epic devrait se voir complété par tout ce qui concerne Infinity. Countdown, donc ouais. À savoir quelques one-shots par-ci par-là. Donc, notamment ces deux sommaires-là, je pense, vont évoluer un petit peu. Mm. Après, bon, concernant la saga X-Men, je pense pareil que Resurrection of Jean Grey devrait logiquement être publié là-dedans. J'espère vraiment qu'ils vont pas sortir un des numéros entre guillemets éponyme pour les grandes sagas. C'est-à-dire qu'on va pas savoir un Marvel Legacy Jean Grey 1, par exemple, parce que là, ce serait vraiment du foutage de gueule.
Je ne sais pas. En tout cas, du côté de X-Men Extra, pour le numéro 1 du mois de juillet, on aura Astonishing X-Men, Weapon X et Jean Grey.
Ouais.
Bon.
Ouais.
La même tristesse que le X-Men Universe actuel.
Bon, Astonishing X-Men, on va aller voir quand même ce que ça vaut, ces nouvelles séries. Mais là, en l'état, bon, si tu me diras, c'est comme ce qui est publié maintenant. Hein, c'est pas très. À part Thor, Cap et c'est tout.
La question que j'ai envie de te poser, depuis quand n'avons-nous pas eu une offre de mensuel en France sans Wolverine ?
Mensuel, tu fais bien. Bah, on a Old Man Logan.
Oui, on n'a plus de série Wolverine.
On n'a plus de New Wolverine, bah c'est vrai. C'est un tour de force, puisqu'à l'époque où Marvel avait repris, ils avaient continué la numérotation de Serval. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant, effectivement.
Donc voilà, bon, le magazine Wolverine avait disparu depuis longtemps, mais en tout cas, il y avait quand même toujours une série qui portait son nom, et là, c'est fini. Ce qui est assez rigolo à l'heure où le personnage va revenir en VO.
Le personnage devrait faire son retour. Hein.
A priori, c'est ce qu'on semble nous dire.
Bien. Voilà. C'est peut-être, sans vouloir dire de bouder les Cash Panini, c'est peut-être le bon moment de tenter un mix entre VFVO, de voir ce qui se fait.
Quelle série vous intéresse et puis est-ce que c'est pas plus avantageux
Exactement.
Un autre mode.
Et puis, de se rendre compte vraiment qu'on consomme ça de manière boulimique et plutôt de cibler pour apprécier vraiment au lieu de lire un sommaire complet et de noyer le plaisir dans trois autres séries, bon, qui restent agréables mais qui sont pas nos priorités.
Si vous n'êtes pas réfractaire au numérique, vous avez Marvel Unlimited, voilà, avec une offre en ce moment à $5 le premier mois, et puis après le tarif passe au tarif normal, c'est-à-dire $9.99 par mois ou $69 pour un an.
Qui là, pour le coup, est l'offre la plus compétitive du marché.
Si vous voulez tout lire Marvel et que vous n'êtes pas réfractaire au digital, bah, jetez-vous dessus, effectivement. Bref, c'était une parenthèse. Bon, ben voilà, hein, on suivra ce...
On reviendra dessus en juillet.
Ouais.
Si on les trouve, si la bonne blague.
Si on les trouve. Parce que de là à ce que certains libraires ne soient pas au courant ou je ne sais quoi, enfin bref. Je pense qu'on va encore bien rigoler dans les mois à venir. Enfin, rigoler, ou pas. C'était peut-être le bon moment pour moi d'arrêter la VF.
C'est un argument. En tout cas, Marvel.
J'ai eu le nez creux.
C'est vrai.
Allez, on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est quelques backups après ce gros morceau. Et puis, on va vous parler maintenant de quelques sorties récentes. Par quoi tu veux commencer?
Bon, je vais continuer sur ma lancée Marvel avec Doctor Strange tome 4, qui est édité en 100% Marvel. Alors, le 100% qu'on connaît maintenant, édition grise cartonnée complète, donc des éditions de librairie classiques. C'est le dernier tome de la série, qui est toujours écrite par Jason Aaron, toujours dessinée par Chris Bacalo, qui se voit aidé de Kevin Nolan, qui fait cette couverture affreuse d'ailleurs, du tome, c'est dit, de Fraser Irving et de Leonardo Romero, qui lui officie sur l'annual, dont je vais parler tout de suite puisque j'ai rien compris, et il rentre dans ces numéros que je vais classer dans la mésentente de Guylaine, puisque tous les numéros VF de Guylaine, je comprends jamais rien, je comprends pas ce qui est dit. Donc voilà, c'est typiquement un numéro de la mésentente de Guylaine. Voilà. Sinon le reste c'est pas mal du tout, puisque on le sait, Jason Aaron construit sur la durée. Je pense que si vous lisez Thor depuis maintenant presque 5 ans, ça s'apprécie, ça se redécouvre et ça se réinvente tout en se respectant à chaque fois. Et Doctor Strange, alors sur une durée moindre, c'est la même chose. Puisqu'on retrouve Mister Misery, qui était ce monstre formé des souffrances accumulées de Strange, puisque Jason Aaron part du principe que chaque sort a un coût, que Strange ne paye pas, qu'il accumule dans la cave du Sanctum Sanctorum, et qui forcément, bah, quand il y en a trop, ça va lui retourner dans le... Enfin, ça va se retourner contre lui. On a donc la résolution de cette intrigue-là. Alors, forcément, c'est du comics dont ça se finit en fin ouverte. Forcément, donc Mister Misery, c'est pas un spoiler, devrait revenir. On a aussi plus ou moins une restauration du monde magique suite au combat contre l'Empiricule et son Imperator. Très bon, c'est très bon, puisqu'on a toute une reconstruction d'un monde qui était en perdition. On a vraiment la nature, entre guillemets, magique repensée droit, et c'est assez bien fait. On a le personnage de... comment elle s'appelle? Je check mon sommaire. Tac, 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 tac. Zelma Stanton, qui est dans cette mouvance du all new, all different. Donc, comprenez des personnages, entre guillemets, jeunes, qui s'immiscent dans la vie de personnages iconiques et qui vont pourquoi pas les remplacer. Parce que là, c'est pas... comment dire? Ça passe, c'est moins médiatisé, puisque Jason Aaron maîtrise en fait tout simplement son sujet, que Zelma Stanton est là depuis le début, et que la fin pourrait modifier un petit peu l'entourage du Sorcier Suprême, puisque, attention, spoiler, on a le départ de Wong qui quitte le Sanctum Sanctorum pour laisser sa place à Zelma. Donc c'est passé totalement inaperçu, entre guillemets, dans la sphère Marvel, mais c'est quand même un changement assez radical. On a toujours cette folie graphique et ce dépaysement constant par Chris Bacalo, puisque ça joue constamment sur, entre guillemets, le monde magique qui interfère avec la réalité sans que on puisse l'apercevoir. Donc c'est toujours super bien fait. On a un petit team-up avec Thor qui est, bon, qui sans être mirobolant est assez sympathique. Donc ouais, la série se termine, elle s'est vraiment bonifiée avec le temps. Jason Aaron a comme toujours réussi à construire quelque chose sur cette fois 4 tomes et près d'une vingtaine de numéros. Moyennant un spin-off que j'ai pas lu, Doctor Strange and the Sorcerer's Stone, qui m'a pas spécialement attiré. Sa série va être prise par un auteur aujourd'hui qui officie sur le bouclier Donc voilà, vous savez qui c'est. On ira lire ça. En tout cas, Docteur Strange par Jason Aaron, c'est très bon, ça a été très fun, très dépaysant et c'est globalement très beau. Sauf les covers de Panini. Voilà.
Ok. Allez, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, je vais quand même le glisser.
Tu vas utiliser la pierre du temps.
C'est ça, je vais utiliser la pierre du temps pour revenir en arrière. Voilà, quitte à changer, quitte à quitter le kiosque pour passer à la librairie, à augmenter les prix, à passer à un format semi-rigide avec le petit rabat, etc., à se rapprocher de l'ancien 100%. Pourquoi ne pas tenter le coup de poker et vraiment peut-être le grand coup en disant « Ok, on change de format, on change de lieu, on vous fait du plus qualitatif, on augmente les prix, j'étais même prêt à payer 7,90 pour ça s'il fallait, et on vous fait que des arcs complets. Chaque mois, vous avez 4 ou 5 séries qui sortent avec l'équivalent d'un TB. Voilà, point barre. »
Ouais, mais comment tu places l'offre librairie classique ?
Ben, on attend un peu plus longtemps et si on veut du cartonné, ben là on le payera 15 balles.
Ah d'accord, ok, d'accord. On fait du relié, du TPB, ok.
Voilà, du TPB type voilà, avec des pages de moins bonne qualité, une couverture pas rigide, même s'ils vendent ça à 8 balles par exemple, il y avait largement la place pour les acheter. Et moi j'aurais peut-être été le premier à réfléchir à passer à un VO, du coup, tu vas revenir peut-être en arrière.
Moi aussi.
Voilà, et ben en juillet, on vous sort le premier arc de Amazing Spider-Man, le premier arc de X-Men Blue, de je sais pas quoi, enfin 4 séries.
Le premier arc, l'arc suivant, quoi.
Enfin là, le TP, quoi. Le TP qui correspond à là où on en est. Et puis le mois suivant, et ben ça sera pas Amazing Spider-Man, ce sera Peter Parker. Mm-hmm. Et puis comme ça, ils sont tous disponibles pendant un temps court, finalement. Et une fois que le truc a quitté les étals, si tu veux le racheter, tu le rachètes en librairie, tout comme pour les kiosques actuels, au final.
Oui, oui, ah oui, tout à fait. Mais tu fais un prix, enfin, si ça dépassait 10 euros, ça servait à rien, quoi.
Ah, mais non, mais ouais. Je parlais à 7,50, 7,90 pour l'équivalent d'un TP. Eux, ils sont gagnants, oui, vas-y, pas plus d'épisodes pour le même nombre de pages, etc. Le truc finira par disparaître de toute façon des étals parce que c'est quelque chose d'éphémère, hein, parce que c'est du mensuel. Et au final, ils pourront tout à fait vendre leur Deluxe derrière qui compilera plusieurs volumes. Et peut-être arrêter cette connerie de multiplier les collections et de faire du Marvel No, du 100% Marvel, du truc. Ben voilà, on sort tout dans ce format-là un peu souple, etc. Et puis, je sais pas, un an après, on sort un Deluxe.
Pour aller plus loin même dans ce que tu proposes, c'est faire globalement toute l'offre qu'ils ont maintenant en TPB mensuel, avec essayer d'avoir un décalage de 4 mois. Et au bout d'un an, forcément, ces numéros mensuels, tu les édites dans des quantités moindres, puisque ça s'adresse globalement aux personnes qui suivent régulièrement, donc c'est-à-dire pas aux nouveaux lecteurs. Et ensuite, un an après, tu sors des formats de luxe qui vont compiler, par exemple, 2 TPB mensuels, et tu supprimes cette gamme intermédiaire des 100% ou des Marvel Now. Ouais, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée.
Un de luxe qui pourrait même, je sais pas, peut-être même rejoindre un petit peu la collection intégrale. On sort l'intégrale de 2018 en format.
Pourquoi pas. Là, c'était vraiment une modification drastique du paysage et c'était
et je pense que ça aurait vraiment cohérent. Régulé sur le prix et les gens étaient prêts à payer 1 € de plus facile.
Ah bah si t'as un arc complet et qu'en plus tu peux cibler les séries, que d'un point de vue quali, c'est sobre, c'est chapitré, t'as un petit récap au début, une petite prévision sur la fin, et la couverture du numéro suivant en bas à droite. Ok, tu me l'as vendu.
Et puis voilà, tu veux garder tes formats de luxe, tu veux garder tes beaux livres, tes beaux machins, comme tu le faisais depuis toujours en achetant en librairie, etc. Bah tu continues à acheter le truc qui sortira un an après, dans ce format-là. Mm-hmm. Ça emmerde personne. Mm-hmm. Bref, voilà, c'était ça le truc que j'avais.
Dernière remarque, il a aussi l'argument de la qualité du papier qui, bon, pourquoi fallait le tenter, franchement, fallait le tenter.
Oui, fallait le tenter, voilà, c'est ça. On n'était plus à ça près, en argument. Bon. Voilà. Bref, tout ça pour dire que moi je vais passer à de la VO et que je vais vous parler du numéro événement d'avril, le Action Comics numéro 1000. Un Action Comics numéro 1000 que j'attendais comme le Messi. J'étais en apnée depuis le numéro 999 qui aurait tout à fait pu servir de fin à la série Action Comics, hein, je l'avais dit à l'époque. Voilà, un numéro 999 qui bouclait pas mal d'intrigues, mais qui laissait quand même de grosses menaces et de grosses questions planer, et qui se terminait par une scène voilà, qui aurait pu être une scène finale de série Action Comics. Et voilà, on aurait pu ne plus jamais avoir d'Action Comics, ça n'aurait pas été gênant. Donc je me disais, pour que ça se termine comme ça, le numéro 1000, ouf, ça va être énorme. On va se prendre un truc, voilà, Superman va se prendre un truc sur le coin du nez qu'il aura pas vu venir et qui va bien changer sa continuité, sa vie pour les décennies à venir peut-être, ou au moins les années à venir. Et ben non.
Et ben non. D'accord.
Voilà, il ne se passe rien dans Action Comics numéro 1000. Cool. Ok. Merci Dessy. 8 dollars. Au revoir. Il ne se passe.
Ah ouais, à ce point-là.
Il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Le numéro principal, qui est censé être le numéro principal, scénarisé par Dan Jurgens, qui donc clôt son run sur Action Comics, qui était plutôt un bon run à mon sens, eh ben, il le clôt par un numéro hommage de 24 pages, enfin 20, 24 pages, je ne sais pas, je n'ai pas compté, voilà, qui consiste en une cérémonie publique dans les rues de Metropolis, sur une grande esplanade de Metropolis, donnée en l'honneur de Superman par toutes les pontes de la ville qui se succèdent, des personnes qui témoignent, qui ont été sauvées par Superman, etc. Et voilà, Superman, il est super, Superman, il est courageux, il est beau, il est grand, machin, tout ça, et voilà, c'est ça le numéro.
Ouais, mais ça, on le sait.
Voilà, c'est juste ça. Il ne se passe rien de plus. Alors, pendant tout ce... Je peux le spoiler, hein, parce qu'il ne se passe rien. Pendant tout le numéro, Superman, au début, Superman voilà, fait un énième combat dans l'espace, etc., et revient sur Terre, revient à Metropolis juste à temps pour assister à la cérémonie en tant que Clark Kent. Mais pendant tout le numéro, il est quand même sur, pendant toute cette cérémonie, il est sur ses gardes parce qu'il a l'impression de voir des trucs qui se passent, voilà, qui sont, ça lui paraît bizarre, quoi. Il y a des trucs qui lui paraissent bizarres et il a l'impression de voir un vaisseau passer, mais en fait, non, il n'y a rien. Donc, en fait, il se dit, bah, peut-être que je suis juste parano, il faut juste que je profite de ce moment-là, etc. Et on finit à la fin par apprendre pourquoi, ouais, ce qu'il y avait derrière tout ça. Franchement, je vais le spoiler parce que, franchement, c'est bidon. En fait, tous les autres héros de l'univers DC étaient en train de se battre dans l'espace, autour de la ville, etc. Contre les menaces qui continuaient quand même à arriver. Et un des personnages manipulait en fait ce que Superman voyait pour qu'il puisse profiter de sa cérémonie. Et à la fin, ils sont tous là à lui dire, voilà, le féliciter, à lui dire que c'est leur héros à eux. Enfin bref, voilà. Et on a une belle.
Est-ce que ce personnage, il a des grandes oreilles noires.
Des grandes oreilles noires.
Non. Avec une cape.
Ah non, tu manipules ce que voit Superman, non, non.
Ah, je suis déçu.
Non, non, c'est plutôt un autre extraterrestre.
D'accord.
Bref. Et donc, à la fin, on termine par une double page avec tous les héros qui sont là à acclamer Superman. Voilà. Merci, c'était le numéro 1000.
Wow, mais il n'y a même pas de...
Rien
de non, next,
non.
De...
Non, il n'y a pas de next, c'est rien. Ça s'arrête là. C'est un numéro hommage. Oui. Voilà, c'est un bel hommage, une belle cérémonie en hommage au personnage.
Ça tease rien, ça promet rien, ça...
Rien du tout, le mec il boucle son run de toute façon, c'était son dernier numéro.
Et c'est beau quand même, regardez.
Comment ?
Est-ce que c'est beau ? Est-ce que le numéro est beau ?
Oui, non, c'est joli, c'est joli.
C'est déjà ça.
Bon, voilà. Alors derrière, on a une foule de petites histoires, hein, entre 4 et 10 pages selon les histoires. Donc on a du Scott Snyder. Bon, bah, je cherche toujours à comprendre ce qu'il a voulu nous écrire. Je suis passé à côté, quoi. Vraiment, là, le truc, je l'ai lu. Il y avait la déception de ce que je venais de lire ou de non lire.
Ouais, c'est vrai.
Derrière, je trouve un truc sur Scott Snyder qui est. Voilà, c'est pas mauvais, hein, franchement. Hein. J'ai pas compris, c'est tout. Bon, bah, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a ? On a du Thomas E. Gleeson. On a une histoire. Alors, je sais plus qui la scénarise, honte à moi, mais alors, Olivier Coipel.
Ah ouais, putain, Olivier Coipel sur Superman, tu me l'as vendu. Là.
Assez. Ouais, c'est assez grand quand même. J'aimerais bien retrouver quand même.
Est-ce qu'il fait toujours ses compositions éclatées sur des doubles pages de folie ?
Ouais, il y a de la belle page. Je l'ai plus en tête parce que je l'ai vraiment lu même cette histoire le jour de la sortie. Je me rappelle que c'était une des plus belles visuellement. Voilà, je vais essayer quand même de la retrouver pour pouvoir. Mais je crois que je l'ai plus. Parce que je n'ai pas encore reçu le truc papier et du coup je l'avais pris en digital de manière pas très très bien et du coup non je l'ai plus bref et puis on a la fameuse première histoire de Brian Michael Bendis dessinée par Jim Lee.
Alors
et une que font les auteurs quand ils arrivent sur un grand personnage, par quoi ils commencent?
Soit ils détruisent tout,
oui,
soit ils détruisent rien. Mmh. Et c'est pompeux et ça raconte rien.
Bah souvent, surtout sur Superman, on commence par un petit retour aux origines et puis une belle petite retcon. Ah bah alors là niveau retcon on est servi.
Ah ouais.
Ah bah sur 10 pages on a une révélation à la fin des 10 pages, hein, donc Superman combat un ennemi voilà qui va être l'ennemi qui va être au cœur de la série Man of Steel, la série hebdo là qui va arriver au mois de.
C'est un ennemi prêt spécifiquement ou.
C'est un nouvel ennemi.
D'accord.
Oui, pour la série Man of Steel, en 6 numéros, là, qui va sortir en juin, à partir de la dernière semaine de mai, sur tout le mois de juin, jusqu'à la première semaine de juillet, chaque semaine. Donc ça introduit ce personnage, etc. Et quand sur la dernière page, il nous dit qui il est et qui nous révèle un truc, ce personnage-là. What? Donc je vais pas le spoiler parce que c'est quand même l'intérêt.
Mais
C'est
non.
peut-être le seul intérêt du Action Comics 1000, c'est cette page et cette révélation qui a une belle retcon. Ça, y a, voilà, y a quelques trucs qui n'avaient pas encore été touchés sur les origines de Superman. Bah, voilà, il restait peut-être plus que celui-là, à la rigueur, je pense même. Bah, ça y est, il est retconné. Bon. J'y suis pas fermé, on verra ce que ça apporte. Pourquoi pas. J'attends de voir Bendis sur pièce plutôt que, voilà, que de le juger juste sur cette facilité. Parce que bah, c'est un peu la facilité pour moi de retconner quelque chose et de dire en fait, vous savez pas tout et je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé et vous allez voir que machin. Ouais, bon, c'est
Surtout
pas
que, sans que je réfléchisse, mais sur les Avengers, il n'y avait pas de retcon immédiate. Sur Daredevil non plus. Bon, sur Jessica Jones, forcément non. Donc c'est bizarre qu'ils fassent ça.
Non, mais il fait ce que beaucoup font en arrivant sur Superman. Ayant peut-être pas forcément d'idées de nouvelles choses à raconter, ben on va raconter autrement les origines et changer un point qui va peut-être tout changer. Voilà. Bon.
Je suis pas sûr que Bendis arrive à se révolutionner lui-même chez DC. Hein.
On verra. On verra. J'attends de le juger sur pièce. En tout cas, voilà. Moi, si je voulais parler de ce numéro Action Comics 1000, c'est pour vous dire ouais, c'est des belles covers, c'est des belles variantes covers, c'est des jolies histoires hommages, parce que franchement, c'est des beaux hommages. Enfin, pour les 80 ans du personnage, numéro 1000. C'est des histoires qui font taf, qui rendent bien hommage au personnage, à son histoire, à plein de facettes de son parcours, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil hein, dans l'histoire principale de Jurgens. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil aux 1000 numéros et voilà, et même dans les histoires qui suivront, les petites histoires courtes. Mais moi, mon problème, c'est qu'en fait, ce numéro des 80 pages, c'est 80 pages de backup. J'attends toujours qu'on me sorte l'épisode principal d'Action Comics 1000. Enfin voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir eu l'épisode principal et d'avoir eu que les histoires secondaires qui sont des histoires anniversaires, etc. Comme on est censé faire dans ce genre de numéro. Sauf qu'ils ont oublié l'épisode principal. Le truc qui va renverser la table et qui va faire que dans 3, 4, 5 ans, on va se dire, ah putain, c'était quand même bien, c'était Action Comics 1000, quoi. Là, dans 3, 4, 5 mois, on aura déjà oublié.
Ouais, ça fait mal.
Et c'est con pour un numéro 1000. Pour moi,
Faire gaffe.
ils ont un peu gâché le numéro 1000.
Détective Comics 1000, c'est quoi? C'est pour l'année prochaine?
C'est l'année prochaine et j'ai peur, du coup.
Bah, je m'inquiète pas, parce que ce sera un numéro scénarisé par Scott Snyder. Donc,
Peut-être. En tout cas, ce sera pas
mais.
Tynion 4, puisqu'il va il raccroche là, il lui reste deux ou trois numéros pas plus, je crois, à faire. Donc...
Par contre, si le Détective Comics 1000, c'est 1000, hein, c'est scénarisé par Scott Snyder, tu peux t'attendre à ce que il nique l'univers DC avec ce numéro.
On verra. En tout cas, le Action Comics 1000 n'aura rien révolutionné et n'aura même rien raconté. Et c'est bien dommage.
Ouais.
Et tu voulais parler d'autre chose?
Oui, je voulais parler du premier nouveau tome de XO Manowar. On va quitter un peu les Big Two pour aller
Ah oui, la nouvelle série.
chez Bliss Valiant. Puisque dernièrement, je suis un peu mitigé sur les dernières sorties Bliss, notamment, puisqu'on avait eu Britannia, que je n'ai pas trouvé exceptionnel. On avait eu aussi Harbinger Renegade, qui, fort d'un passé culte, m'avait extrêmement déçu sur la. Notamment sur sa paresse et son manque de réinvention dans ce tome 1 de Renegade. Alors là, XO, c'est un peu le même procédé, puisque c'est la suite, mais ça peut se commencer avec ça, comme Renegade d'ailleurs. Sauf que là, c'est réussi. C'est écrit par Matt Kint, qui est un habitué et un régulier de Valiant. C'est dessiné par le nouveau, enfin, du moins, je le découvre, Thomas Giorello. Alors, je me suis renseigné un peu, c'est un habitué de la fantasy, puisqu'il officiait avant sur du Conan, et ça se
Et
voit.
c'est pas un manche.
Et ça se voit. C'est putain de beau. Et on a Doug Braithwaite, qui lui aussi est un habitué de Valiant, que j'aime un peu moins. Et surtout, il tient pas du tout la comparaison face à Giorello, qui a quelque chose de beaucoup plus percutant, mais à la fois beaucoup plus poétique. Beaucoup plus large, et ça marche super. Enfin, vraiment, graphiquement, la première partie du tome est splendide, vraiment splendide. La deuxième, beaucoup. Enfin, on est en terrain connu, quoi, on va dire. Alors, pourquoi c'est bien XO? Parce qu'en fait, c'est un nouveau départ. Sauf que ça n'oublie rien de ce qu'a fait Robert Venditti dans les trois intégrales précédentes. Puisqu'en fait, là où on va taire un petit peu les événements, à chaque fois c'est sous-entendu, on sent qu'il y a un passif, que le personnage a vécu des choses, mais on va le sentir qu'à travers le personnage. C'est très rarement cité, c'est très rarement exposé, mais on sent que le personnage a vécu, a mûri, puisqu'on avait quand même un Aric de Dacy qui, durant ses 50 numéros, est resté quand même un barbare sanguinaire, digne, très digne, courageux, mais sanguinaire. Là, on est sur un personnage qui a vieilli, qui s'est exilé pour certaines raisons, qui a réfléchi dessus, qui est beaucoup plus réfléchi, qui est beaucoup plus mesuré, qui n'en oublie pas pour autant sa violence entre guillemets naturelle qui est au fond de lui. Et puis on va le voir tout au long du numéro. Il y a certains moments où c'est très impactant. Il est exilé sur une planète qui est à l'intermédiaire, à la croisée des chemins entre Star Wars et Dune, un petit peu. On a un bestiaire divisé en trois factions, trois ethnies qui veulent se partager globalement la planète. Arik s'est retrouvé au milieu en tant que paysan globalement neutre. Il va être mêlé à ce conflit tripartite, on va dire. Sauf qu'il ne va pas choisir de camp. C'est notamment ce que lui a appris, tout ce que a apporté Robert Venditti. Il est bien au fait de ce qui se joue dans un conflit militaire. Il est bien au fait que ce pour quoi on se bat n'est pas ce pour quoi se battent les dirigeants. Il est parfaitement au courant que tout n'est pas noir, à la fois tout n'est pas blanc ou tout n'est pas bleu dans le cas de ce tome. Et c'est vraiment super bien, quoi. Puisqu'on a là où les Big Two, bon, ça fait partie du jeu, mais bon, c'est vrai qu'à bout de quelques années, une petite décennie de lecture, ça tourne en rond, c'est un fait. C'est pas pour autant que les histoires sont mauvaises, mais ça tourne en rond. Là, on a vraiment un personnage qui est catapulté dans une autre galaxie, c'est le cas de le dire, et qui est en constante évolution, et c'est super cool, quoi. C'est vraiment super cool. Le personnage, il est pas figé, il évolue et il va évoluer sans doute, puisqu'on a un petit indice sur pourquoi pas un petit côté familial qui pourrait s'immiscer là-dedans. On a un conflit beaucoup plus intéressant avec Shannara, puisqu'on va se rendre compte que l'armure va prendre des formes un peu différentes et il y a quelque chose qui se joue là aussi autour de ça. Ça me fait un peu penser à ce que, dans un style totalement différent, mais à ce qu'a fait, pour parler jeux vidéo, God of War actuellement. C'est-à-dire qu'on va reprendre une série, l'ADN d'une série, et on va la catapulter, la faire mûrir. Et bon, le parallèle est peut-être un peu fumé, mais je le trouve pertinent et c'est super bien. Vraiment, j'attendais ce tome, c'est un des trucs que j'attends le plus cette année. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est une putain de tuerie. Surtout que là, pour le coup, la couverture est sublime. Dans un hommage évident, mais très généreux à Star Wars, tout simplement. Vous irez checker les affiches ciné pour vous rendre compte de ça si jamais c'est pas clair. On a aussi une édition qui là, elle aussi est irréprochable, là où Britannia et Harbinger Renegade étaient un peu fainéants en termes de bonus. Voilà, c'est le maxi best-of, quoi. C'est de l'interview de l'équipe, une session de questions-réponses de l'équipe artistique, des layouts, planches comme ils ont l'habitude de faire, où on a les crayonnés, l'ancrage, les couleurs, les explications sur la composition, le pourquoi de Matt Kint a repris, pourquoi dans cette direction, l'interview des dessinateurs. Toujours le récap à la fin de la suite. Donc ouais, vraiment un putain de bon tome. C'est vraiment super bien, quoi.
En termes de bonus, ouais, je les connais puisque j'avais les singles de ce début de série et ils étaient déjà dedans. Et ouais,
c'était... Ah bah voilà. Ouais. Bah voilà. Puis même au niveau du bestiaire, de l'univers, je m'exile comme le personnage. L'auteur s'exile un petit peu de tout l'imaginaire qu'on avait des vignes, de quelque chose d'assez végétal, mais en même temps organique et tout. Le côté aussi organisation mondiale, donc qui était très présent et dans Valiant et dans XO. Là, on n'est plus du tout sur ça. Ça change bien. Le bestiaire est cohérent sans être fantasque. C'est entre guillemets tangible et ouais, c'est vraiment le parfait mélange entre le space et le fantasy à la sauce XO, mais avec un temps de maturation qui fait que le tout est vraiment génial. Donc un super tome.
Ouais, avec la, j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, avec la série qui est arrivée là, Ninja versus the Valiant Universe, avec toutes ces choses aussi qui se passent côté news VO autour de Valiant, etc. Ouais. Il serait peut-être de bon ton de songer à une émission sur cet univers.
Oui, parce que alors c'est pas Spider-Man, c'est pas Iron Man, c'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est pas ce qu'on voit au cinéma, mais honnêtement, c'est le truc le plus solide qu'on a en ce moment. Alors, tout n'est pas bon. Enfin, du moins, tout ne me plaît pas. Je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde. Oui. Tout n'est pas parfait. Mais putain, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment, Imperium et Toyo Arada, c'est peut-être les meilleurs personnages qu'on a depuis... Enfin, depuis très longtemps, quoi. Mm-hmm. Vraiment.
Eh bien, ouais, à suivre, mais en tout cas, une petite émission autour de tout ça, dans le début de l'été pourrait être de bon. Bref, passons à la suite. J'avais pas forcément d'autres titres, moi, dont je souhaitais parler, à part ce Action Comics 1000. Voilà, je suis en train de me refaire Invincible, puisque maintenant que c'est terminé en VO et que
Ah, il faudrait que je commence.
j'avais un retard absolument dingue, voilà, je m'étais arrêté au bout de 6 TP. Donc,
Ah
le 25e et dernier étant sorti, bah voilà, je l'ai refait progressivement, j'en suis arrivé au 4e. Donc, je redécouvre, entre guillemets, ce que j'avais déjà lu il y a des années et des années. Et ouais. Je me demande pourquoi j'avais arrêté en fait. Donc non, c'est vraiment. Et si t'as pas commencé, vas-y, commence.
non,
Par
j'avais
contre, prends les
commencé.
deux premiers tomes d'un coup, puisque la série devient ce qu'elle est dans le deuxième tome.
D'accord.
Il se passe quelque chose dans le deuxième tome. Voilà, le premier tome est une installation classique de série de super-héros, etc. Et c'est vraiment avec l'épisode 7 de la série que la série démarre et qu'on s'aperçoit qu'on va pas lire du tout ce qu'on pensait lire au début.
Peut-être la lire en anglais par contre. Parce
Oh, c'est ce
que
que
je sais
je
pas.
fais, oui.
Cumuler des éditions dès le courant, ça me.
Moi, j'aime pas trop les éditions de tel cours. Donc.
Moi non plus. Je suis pas
Bref,
sûr.
les TP Image me vont très bien. Surtout qu'il y a moyen de les choper pour pas trop cher maintenant qu'ils
En
datent un
plus,
petit
il va y
peu.
avoir peut-être des éditions intégrales ou des trucs comme ça.
Il y a des doubles en hardcover, des doubles tomes. Il y a des compendiums. Alors, le meilleur format, c'est le compendium hein, qui recueille 48 numéros pour
Ouf.
35 ou 40 balles. Hein.
Ah oui, c'est intéressant.
Donc, le
C'est très
numéro
intéressant.
pèse un âne mort. Mais en trois compendiums, tu as la série complète.
Putain, c'est bon ça. Bah
Et je
tiens.
crois qu'ils sont entre 36 et 46 euros selon les époques et selon les sites. Voilà.
La paye va pas tarder à tomber. Je
Donc
pense
ouais,
que.
franchement, alors je trouve pas le format. J'en ai eu un entre les mains déjà. Je trouve pas hyper pratique à lire. Moi qui aime bien avoir des dos de livres bien propres dans la bibliothèque. Bon là c'est compliqué avec un truc aussi épais. T'es obligé de faire une pliure à un moment et ça j'aime pas trop. Donc je m'en tiens au TP, mais en tout cas la formule la plus économique, c'est ça.
Ok. Eh bien, Banco Royal, hein.
Bah voilà. Parce que pour le prix de 4 TP, bah t'as le contenu du 8, quoi.
C'est vrai.
Eh bien, est-ce que tu avais toi autre chose en stock?
Non, pas spécialement, puisqu'on est un peu en mois et les kiosques vont reprendre. Secret Empire se termine, donc
Voilà.
non,
Donc
on va
nous,
se retrouver sur le
on
site.
enregistre le 30 avril, hein, donc le mois se termine, et puis vous allez nous écouter au tout début d'un nouveau mois. Donc on va vous dire un petit peu ce que nous on attend sur le mois de mai en termes de sortie. Il y a quelques petites choses qui nous tentent plutôt parmi la production VF. Donc je te laisse
On fait chacun
commencer
son
par
tour.
oui,
Ok.
vas-y.
Chacun son tour. Donc moi, bon, forcément, d'un point de vue kiosque, c'est la fin de Secret Empire. Donc même si c'est, bah, je pense que c'est évident, ça mérite quand même d'être lu. On a un tome de Punisher Max qui va sortir. Donc ça, c'est quand même une grosse sortie. On a du Sculpt Intégral Volume 4 qui est intéressant. On a effectivement et évidemment le FCBD. Qui va pointer le bout de son nez avec bon, des numéros qui m'intéressent pas trop, sauf peut-être Urban avec son White Knight, c'est ça?
Oui, c'est ça,
Ouais, c'est
Batman White
ça.
Knight.
FCBD auquel je ne pourrai pas assister sans doute. Enfin, passons. On a un tome Captain Phasma Star Wars par Marco Cecchetto, donc qui graphiquement devrait être assez intéressant. Je sais pas si vous en aurez une critique, mais c'est quand même une grosse sortie. Du côté de chez Bliss, on a Secret Weapons. Qui est alors qui moi j'attends pas autant qu'Ixo mais bon qui reste quand même une grosse sortie du côté de chez Bliss. On a quelques hors-séries intéressants puisqu'on a du Spider-Man 2 où là bah bravo Panini parce que ça aurait pu faire un tome librairie qui se serait vendu à l'appel et ils nous font ça dans un hors-série moyennant prix modéré. Donc ça c'est super cool. On a l'arrivée du Marvel Heroes 1 avec une couverture de Civil War, je comprends pas. Je comprends pas je comprends pas.
Ouais, le fameux Marvel
Je
Heroes. Ouais.
comprends pas ce choix. On a The Fix, tome 1, série de Nick Spencer qui sort, sur laquelle j'ai lu le tome 1 qui m'avait pas plu, mais ça reste quand même, c'est un bon délire. C'est vraiment un bon délire et un truc différent de tout ce qu'on peut lire chez Image. Descender, tome 5.
The Fix, Donny Cates.
Non.
C'est pas lui.
C'est Nick Spencer, The Fix.
Ah, peut-être. Ok. Non, je sais qu'il y a un truc de... Ah non, c'était. Non, mais je confonds n'importe quoi. Allez, on oublie. Je
Ok.
confonds avec Redneck.
Et forcément, la fin du mois avec Dark Knights Metal, la nouvelle folie de Josh Whedon, n'importe quoi, de Scott
Bah
Snyder.
chacun notre petite connerie en fin d'émission, ça va.
de Scott Snyder, et qui va, comme à chaque fois, révolutionner le Batman DC et le média dans son entièreté.
Évidemment.
Et ce sera forcément un immanquable, surtout que Urban compile ça dans des éditions qui diffèrent de la VO, puisque la VO fait le choix de fait un choix un peu bizarre de, bon, il regroupe dans trois tomes un peu à la volée. Urban fait une publication chronologique, c'est-à-dire que dans Batman Metal tome 1, on n'aura pas tous les numéros de Metal, mais par exemple les deux premiers avec les tie-ins rangés au bon endroit et tout. Donc c'est assez génial, et ce sera forcément à retrouver en fin de mois sur le sur.
C'est ça. Ils suivent l'ordre de lecture, en fait.
Ouais, c'est vraiment du reading order, ce qu'on peut trouver sur Internet, mais cette fois dans les éditions déjà préparées. Donc c'est super.
C'est plutôt intelligent, c'est pas mal, je trouve. Ok, bah écoute, pour ta sélection VF, voilà, moi j'ajouterais éventuellement Final Crisis tome 1.
Ah bon ?
C'est
où ça ?
Qui arrive le 18 mai chez Urban. Donc voilà, la dernière grande crise avant Flashpoint, voilà, qui va sortir en deux tomes, donc un en mai et le deuxième sortira en août. Je crois que c'est en deux tomes, hein, j'ai pas suivi forcément le truc.
Ouais, c'est en deux tomes.
Des gros tomes à 35€, voilà. C'est quand même assez important. Le tome 5 de Descender.
Oui.
Le 18 aussi. Voilà, c'est tout ce que j'aurais pour la VF. Le FCBD, évidemment, avec le FCBD Walking Dead qui me tente bien, puisqu'il y a la petite histoire consacrée à Negan qui va commencer. Et puis l'arrivée de Archie chez Glénat. Voilà, en gros, mais moi je vais vous parler plutôt de ce que j'attends moi en VO, du coup, comme ça sera bien complémentaire. Et ben en VO, on a la nouvelle série Avengers qui arrive, dans deux jours, le 2 mai. Jason Aaron qui arrive avec Ed McGuinness pour le premier numéro. Voilà, qu'est-ce qu'on a en VO également? On a le dernier numéro de White Knight, alors que le premier va arriver en VF. On a également.
T'as suivi ça?
Oui, j'ai suivi, je suis à jour.
C'est bien?
Le premier numéro est bien, ouais.
D'accord.
Et les autres sont beaux.
D'accord. Bon.
Et au final, on va. Ouais, bon, c'est gentil, quoi, c'est propre, quoi. C'est okay. La surprise que je pensais avoir, on l'aura peut-être pas finalement. Donc bon, allez, c'est pas grave, il va ranger les jouets, et puis c'est bien. Marvel, ah, ça y est, Jonathan Hickman a fini d'écrire sa série Shield.
Pas facile. Ouais, putain, c'était super bon ça.
Voilà, donc elle n'était pas finie cette série. Donc Marvel va ressortir les numéros déjà sortis, les quatre premiers, dans un seul gros single à $5, à $6. Dans un numéro qui s'appelle Shield by Hickman and Weaver Rebirth numéro 1. Petit coucou,
ça, c'était beau ça aussi.
Donc voilà, ils sortent du coup les numéros 1 à 4 dans un seul single à $6, et derrière ils vont sortir les deux numéros manquants dans les semaines qui vont suivre. Donc fin mai on aura terminé la série Shield d'Hickman.
La série Shield d'Hickman qui trouve une résonance dans le Secret Empire 1 d'ailleurs.
Donc là voilà, il va terminer, le sixième et dernier numéro sortira le 30 mai. Donc pas mal. Qu'est-ce qu'on a également en VO? On a une série qui s'appelle Barrière. Une série de Kevogan, de Brian Kevogan et comment elle s'appelle? Marcos Martin, la même équipe que Private Eye, qui avait sorti une autre série sur la plateforme digitale. Je ne sais plus comment ils l'appellent, leur plateforme à eux, et du coup qui sort en single chez Image en 5 numéros, les 5 numéros sortent ce mois-là. Qu'est-ce que je vais guetter également? Justice League No Justice, d'un certain Scott Snyder.
Immanquable.
En 4 numéros, les 4, il y a beaucoup de séries hebdo cette semaine, ce mois-ci. Hein. Les 4 numéros sortent également dans le mois, à partir du 9 mai, 1 par semaine. Évidemment, Oblivion Song qui continue, le numéro 701 de Captain America. Qu'est-ce qu'on a encore? Doomsday Clock se décide à sortir, on va voir le numéro 5, fin du mois. Le 600 de Invisible Iron Man, pas mal aussi. Donc on a un beau petit programme.
Ouais, il y a de la grosse sortie là. Peut-être que je vais me laisser tenter, essayer au moins le Fresh Start Marvel en VO, voir piocher à droite à gauche ce que ça vaut, pour pouvoir comparer à la VF, me faire une idée.
Oui, voilà, et puis Bendis qui commence son travail. Ah non, c'est pas Bendis qui commence son travail, c'est Action Comics Special numéro 1, qui est en fait le dernier numéro de Daniel Ruggins.
D'accord. Voilà.
Comme s'il avait. Il a tellement raconté de choses dans le numéro 1000 qu'il lui faut un special
pour terminer
tout ça. Quoi. Bref, voilà pour le mois de mai. Donc pas mal de petites choses dont certaines dont on vous parlera forcément dans la prochaine émission. Soyez-en sûrs.
Bah, de toute manière, la prochaine émission.
Alors, pas la prochaine, évidemment. Effectivement, parce que tu as raison. Puisque la prochaine émission sera consacrée
à Infinity War.
Voilà, sera consacrée au cinéma.
Forcément.
On n'est plus forcément très fan des émissions consacrées aux films, etc. Vous avez bien vu qu'on a arrêté tout ça, mais voilà, Infinity War étant quand même
ouais.
un événement, ne serait-ce que la boucle de 10 ans qui se termine. Donc, il fallait quand même qu'on en dise deux mots. Donc, on en parlera dans quelques jours. Vous aurez donc deux émissions assez rapprochées, mais assez différentes et qui n'intéressent pas forcément les mêmes personnes. Donc, du coup, on vous les mettra certes à quelques jours d'intervalle. Mais voilà. Donc, vous le savez maintenant, la 272, dans quelques jours, Infinity War. Du coup, on vous dira ce qu'on en a pensé. Et est-ce que ça nous réconcilie ou pas pour ceux qui étaient fâchés avec le Marvel Cinematic Universe. Enfin, voilà. On reviendra sur ce film. Et puis, donc, le 273 qui suivra a priori dans quelques semaines, fin de mois, début juin. On a l'air d'être reparti sur une base plutôt régulière. Et bien, on vous parlera sans doute de quelques titres parmi ceux dont on vient de vous parler. Et puis, on aura évidemment un gros sujet qui sera dicté par l'actualité ou qui sera peut-être Valiant. On verra. En tout cas, d'ici là, bonne lecture à tous, bon cinéma pour ceux qui n'ont pas encore vu Avengers Infinity War, et à très vite.
Salut.